heures sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez. Si vous écoutez cette émission en podcast depuis le www.radio-g.fr, vous êtes bien dans la case de Seb. Ce soir, on va vous parler du coup de Murakami, vous l'avez entendu. On va vous parler également d'autres BD, de plein de trucs. Attention, c'est parti pour le générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans cette nouvelle case de Seb du 28 mars 2022. Si on est toujours en vie, c'est pas mal. Je suis en compagnie de Luc. Vous l'avez entendu si vous suiviez Topette juste avant, qui s'est encore prêté au jeu de la lecture. Pas imposé, parce que tu choisis quand même un petit peu.
Lecture dirigée.
Lecture dirigée. Après, je trouve ça hyper intéressant de croiser ces choses-là. Donc, c'est encore un grand plaisir de t'avoir avec nous. On va parler de plein de choses. Il y aura encore peut-être une autre adaptation. On va parler aussi d'actu derrière. Il y a une grosse actu BD qui arrive. Je ne sais pas si tu vois laquelle. Qu'est-ce qui se passe les 1er et 2 avril 2022, Luc ?
C'est le Geekfest. Festival, non, l'Angers Geek Festival, non?
Ça va être juste après. C'est le week-end qui arrive. Ce sera c'est du 2 au 3, l'Angers Geek Fest. On en reparlera tout à l'heure.
Alors, je donne ma langue au chat.
Eh bien, ce sont les 48 heures de la bande dessinée. Donc d'accord, c'est un événement qui est national pendant lequel vous allez pouvoir avoir une sélection de bandes dessinées. Vous allez pouvoir aller chercher chez vos libraires favoris. Alors pas que des libraires, puisque j'ai pas mal de chiffres à vous communiquer, mais du coup c'est une belle sélection. Il y a 11 éditeurs qui sont partenaires. Il y a un panel de 250 000 albums à 2 €.
Ah oui.
Donc il y a une sélection, ouais, mais sur une quantité globale. Il y a 50 000 albums qui sont donnés aux écoles, collectivités, associations, 1700 librairies participantes et 500 animations sur toute la France avec 250 auteurs qui sont impliqués dans ces rencontres avec le public. Donc c'est un événement qui fête sa 10e année. Je pense que ceux qui connaissent, qui suivent un peu la bande dessinée connaissent un petit peu le truc, mais au départ c'était des albums qui étaient gratuits à retirer directement chez vos libraires. C'est passé à 1 €, puis à 2 €, et là on est vraiment au bout de 10 ans sur un événement qui commence à faire un grand plaisir. Si vous n'avez pas... Mince, j'arrive pas à retrouver la sélection, c'est pas grave. Il y a une sélection avec pas mal d'albums. Donc pour 2 €, vous pouvez avoir des albums comme Marshall Bass, Jim Hawkins, si vous aimez les choses de pirates. Il y a Samouraï, Nin, aux éditions Kenes, qui est un super album pour enfants, qui est plutôt classe. Putain de chat, qui est un album humoristique sur les chats qui veulent absolument oxyre leur propriétaire. Goblin Slayer, un manga. Alors là, attention, pas pour tous les enfants non plus. Et puis Blue Diary, la version BD et déjantée dessinée par Alexandre Arlen. Donc là, j'ai l'impression que tous les albums ont des couvertures spécifiques. Blue Diary, j'en suis sûr. Et Blue Diary, qui est un petit peu... Il y a des passages parfois un peu sexuels et un petit peu saignants. Mmh. Ils ont édulcoré un petit peu l'album pour que ce soit accessible à un public plus large. Mmh. Donc c'est une super opportunité, si vous n'avez pas beaucoup de BD chez vous, de découvrir des séries qui sont franchement vraiment sympas. Là, je vous en ai donné juste un petit florilège, mais il y a vraiment pour tous les âges. Je pense au Pied qui pousse, par exemple, qui est un truc pour les tout-petits. Ça permet effectivement de découvrir certains albums. Pour ceux qui hésitent, de se lancer dans certaines séries, parce que ce soit Samouraï, Nin ou Marshall Bass, ça peut commencer à faire un certain nombre d'albums. Mmh. Donc, faut pas hésiter à y aller. C'est vraiment une bonne occasion de découvrir des bons albums.
Eh bien, écoute, on prend note et c'est après-demain, quoi, finalement. Ça approche.
Ah, ben oui, ça va venir très, très vite. C'est dans deux jours, quoi.
Ouais.
Donc. Mais c'est une initiative qui est. Ouais.
On trouve les infos sur quel site, là
48heuresbd.com.
D'accord.
Tout simplement. Il y a la sélection 2022. Vous avez une petite carte qui permet de localiser en fait les institutions partenaires. J'aime pas citer des marques, mais l'enseigne Carrefour, par exemple, propose les 48 heures BD en magasin, ce qui est plutôt cool. Après, si vous avez un libraire spécialisé BD sur Nantes, on va avoir la librairie nantaise, on va avoir Croquis et le repère des héros sur Angers. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut.
On pourra trouver à Angers.
Sans problème. Est-ce que tu veux commencer, Luc ?
Eh bien, écoute, si... Oui, moi, je suis prêt. Hein. De toute façon, je suis là pour ça, non ?
Alors, là, je t'avais proposé un challenge sur une lecture que je n'avais pas... Enfin, l'album en cours, la BD, je l'avais lu. Mais Murakami, j'en avais jamais lu au complet. Je me suis rattrapé depuis.
D'accord.
Je te laisse la main.
Eh bien, écoute, oui, c'est dès qu'on prononce le nom de Murakami, nécessairement dans la tête des aficionados, parce que de toute façon, Murakami, ça induit des aficionados, c'est comme ça. Y a des images de rêves, de mondes parallèles qui s'interpénètrent, d'irréalité. Et il y a quelque chose d'addictif chez Murakami, à qui l'on promet chaque année le Nobel et qui, chaque année, se voit opposer un autre auteur, une autre nationalité, un autre style. Comme si ces livres n'étaient pas de la vraie littérature, peut-être trop léger, peut-être trop superficiel. Alors, puisque ce n'est pas de la grande littérature, est-ce que Murakami se prête au genre et à la BD ? Là, on parle d'un album qui vient de sortir chez Delcourt, aux éditions Delcourt, et c'est plutôt un roman graphique puisqu'il fait plus de 400 pages, et que ce sont 10 nouvelles qui ont été adaptées, et la mission a été confiée à Jean-Christophe Devenet et pour l'adaptation et le scénario, et à PMGL. Alors PMGL, ça veut rien dire. Donc je vais retrouver Pierre-Marie Grille-Liou pour le dessin. Et dans ces 10 nouvelles, moi je me suis plutôt attaché à l'une d'entre elles, la seconde attaque de la boulangerie, parce que c'est un texte que j'ai chez moi, voilà, qui m'a donné l'occasion de le relire. Et c'était intéressant parce que ça, dans les visites que je te fais, Seb, l'intérêt c'est que je me contente pas de l'album parce que c'est intéressant, mais c'est que moi j'ai envie de le mettre en perspective aussi avec le texte original pour voir un peu ce qu'apporte éventuellement la bande dessinée. Donc la seconde attaque de la boulangerie, c'est une nouvelle. Et si seconde il y a, ça veut dire que nécessairement il y en a une première. Et ben voilà, tu suis, c'est parfait. Cette seconde attaque, en fait, c'est l'histoire délirante. C'est toujours délirant chez Murakami, mais c'est l'histoire délirante d'un couple qui se réveille en pleine nuit, saisi par une faim inexplicable. Ils ont faim. Ils vont se retrouver dans leur cuisine et grignoter des vieux boudoirs tout rassis en buvant de la bière. Et cette faim inextinguible va faire ressurgir dans la tête de l'homme une autre faim, une autre époque, un autre compagnon. Une faim si terrible, cette première, qui les a fait attaquer une boulangerie. Et l'homme va raconter à la femme cette première attaque d'une boulangerie. Cela va devenir une évidence pour la femme. La faim la tenaille tellement que cette image de boulangerie va la coloniser et elle va entraîner son compagnon dans une expédition nocturne à la quête d'une boulangerie. Et en fait, de boulangerie, c'est un McDo qui surgira et qui subira leur attaque délirante. Cette histoire improbable qui se termine par la commande de 30 burgers quand même, mais seulement le paiement de 2 gobelets de coca, et je raconte pas dans quelles conditions parce que c'est... on est chez Murakami. Jean-Christophe Devenet fait une adaptation extrêmement fidèle. Comme la nouvelle est en partie dialoguée, il reprend parfois l'intégralité des conversations, ça pose aucun problème parce que c'est des dialogues assez courts, reprenant exactement les mots de la traduction de Corinne Atlan et Hélène Morita, qui sont les traductrices de Murakami, les traductrices officielles. Et PMGL, Pierre-Marie Grille-Liou, lui doit relever le défi de la mise en image. Et PMGL, c'est un dessin plutôt rude, presque pas propre, des personnages que l'on peut trouver bâclés. Il oscille entre la polychromie, la bichromie, le noir et blanc. Donc ça, chaque nouvelle est un peu une dominante. Et la question s'agissant de Murakami, c'est comment ces deux personnages, Devenet et PMGL, allaient se sortir des dérives oniriques de Murakami. Parce que la particularité de Murakami, c'est qu'il procède par translation, par glissement. Il y a rarement l'utilisation de l'adverbe « comme », qui souvent formalise une métaphore, pour introduire une métaphore. Donc lui, c'est dans la phrase même qu'il nous fait passer d'un univers à l'autre. C'est-à-dire qu'on lit une phrase et puis tout d'un coup, on bascule. Je dirais presque qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on est passé dans un autre monde, dans un autre univers.
Dans une sorte de rêverie, souvent.
Une rêverie, voilà. C'est ça, c'est une rêverie, mais ce n'est pas une rêverie parce que c'est la réalité du personnage. Enfin, c'est très, très étrange. Dans la seconde attaque de la boulangerie, l'homme rêve, et dans son délire d'affamé, il est dans une barque sur la mer. L'eau est très transparente et il distingue parfaitement un volcan sous-marin sans avoir la notion de la profondeur. Cette scène revient deux fois dans le roman et les deux auteurs l'installent dans la BD à l'ouverture et à la clôture de la nouvelle. Ça peut peut-être conduire à un léger contresens parce que justement, on pourrait penser que c'est un rêve. Ce qui n'est pas le cas chez Murakami. Donc la réalité et le rêve sont tous deux parties intégrantes d'un monde réel. Mais cependant, la manière dont ces deux scènes sont dessinées traduisent vraiment bien l'étrange, cette faculté, cette subtilité de Murakami. Moi, j'ai lu la nouvelle et je fais la comparaison, je dirais presque trait pour trait. C'est-à-dire que j'ai voilà. Et dans cette BD, j'ai éprouvé une sensation presque identique celle que j'ai éprouvée à la lecture des romans. Que ce soit dans la nouvelle intitulée « Samsa amoureux », que j'ai pas lu. Donc moi, j'ai lu que la BD. J'ai éprouvé exactement la même sensation, cette sensation de glissement, de transfert. Là, c'est Samsa, c'est un homme qui dort dans son lit et qui va tomber amoureux d'une femme bossue. Cette femme est venue réparer une serrure chez lui. Alors, c'est toujours des histoires complètement alambiquées. Et une autre qui s'appelle Sommeil. Une femme n'a pas sommeil. Et nous sommes dans ses pensées. Pendant toute la BD, nous sommes dans ses pensées. Elle visite sa vie, qui n'est pas très enthousiasmante, et elle découvre que ce temps passé à ne pas dormir, c'est un tiers de sa vie qui lui est accordé en plus. Et pour elle, c'est une révélation, et elle prend sa liberté dans ce tiers de temps qui lui est donné. Pour qui aime la BD, qui ne se limite pas à 48 ou 56 pages, cet album, c'est un vrai plaisir. Je parle bien de lecture, au sens où PMGL, à cause ou grâce à son dessin très rude, force notre attention et nous oblige à regarder chaque case. Avec ce petit supplément mystérieux, toutes les onomatopées sont calligraphiées en japonais par Misato Morita, et parsème les cases un peu à la manière de Wish, des Splash, des Bang, des BD classiques. Mais là, c'est simplement des idéogrammes japonais qui ne sont pas traduits, donc on ne les comprend pas. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais ils sont là, presque délavés, mais ils apparaissent tout le temps dans toutes les cases. Et ça, c'est vraiment un supplément vraiment important. Et moi, vraiment, cet album donc, qui s'appelle Haruki Murakami, le septième homme et autres récits, qui est publié chez Delcourt. Moi, il est à lire en soi, pour lui-même, et s'il donne envie au lecteur de plonger dans cet univers-là, tant mieux, parce que leur plaisir en sera redoublé.
Eh bien, je te remercie, Luc. C'est vrai que c'est étrange à découvrir. C'est vrai que moi, j'avais vu des couvertures de Murakami, des romans, où je me suis dit, tiens, c'est très sérieux, c'est compliqué. Mmh. Alors, oui, c'est compliqué. Mais très sérieux, je ne sais pas si le terme sérieux peut vraiment s'appliquer à Murakami, puisqu'on a vraiment ce côté, je dirais presque fantasmagorique. Tu parlais de Samsam tout à l'heure. Il y a cette situation amoureuse qui est complètement étrange et qui se situe dans un univers un peu bizarre également. Et c'est des découvertes et ça, comme tu le disais, ça demande vraiment une implication en fait de lecture pour vraiment aller plus loin que ça.
Quand on rentre dans Murakami, mais je pense qu'on a quelque chose qui est de cet ordre-là dans la BD. C'est une chose qu'il faut que le lecteur accepte. Il faut qu'il accepte qu'il rentre dans cette lecture-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il résiste. À partir du moment où il va résister, il va passer à côté. Ça n'ira pas. Donc il faut qu'il accepte. Et là, on prend un plaisir de lecture immense. Et moi, vraiment, cette bande dessinée, il y en a une qui est extraordinaire, qui raconte l'histoire d'un le septième homme. Donc un homme qui est un peu dans ses réunions d'alcooliques anonymes. Donc des gens qui se parlent, et il raconte qu'il a perdu un ami qui a été englouti par un tsunami, dans un tsunami, un peu par sa faute. Et c'est impressionnant comment c'est fait. Et il y a il dessine donc l'ouragan qui va conduire au tsunami. Et c'est une pleine page, et c'est là où on retrouve ces idéogrammes sur la page. Là, je montre devant le micro. On ne sait pas ce que veulent dire ces idéogrammes, mais ils sont là, et j'imagine qu'ils décrivent le bruit de cette tornade. Voilà, et ça, on le retrouve partout dans le bouquin, et je trouve ça vraiment tout à fait judicieux de l'avoir fait.
Et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de ces idéogrammes. Alors je sais que je parle pas japonais, mais le japonais est très bruité. Le battement du cœur, c'est doki doki, ça s'entend. Et là, la façon dont c'est dessiné, la façon dont c'est mis en page, on entend presque l'idéogramme sans arriver à le lire. Et c'est ça qui est vraiment génial. On peut avoir des bruissements d'électricité, des grincements de porte, mais ça bruite.
Tout à fait. Effectivement, c'est exactement ça. C'est cette sensation-là qu'on a de comprendre ce qui est dessiné alors qu'on n'arrive pas à le lire nécessairement. Et c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une. Enfin, c'est vraiment intéressant. Alors, ça nous rapproche de peintres autrichiens. Enfin, il y a vraiment. C'est un dessin très, très, très particulier, mais vraiment passionnant. Moi, je recommande cet excellent travail, ce magnifique travail des éditions Delcourt.
Et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce sont des nouvelles, ce sont des histoires plus ou moins longues. Donc là, Luc, il y en a certaines qui t'ont plu, moi il y en a quelques-unes qui m'ont plu. J'ai adoré celle avec le détective dans l'immeuble, qui est complètement étrange. Mais si la première vous tente pas, prenez-en une au hasard. Il y a forte chance qu'à un moment, vous soyez au moins surpris, au moins interloqué, surtout avec ce dessin qui est très organique dans son travail. C'est vraiment super. Belle découverte, en tout cas.
Pour moi aussi.
Merci Luc, en tout cas. Je te garde avec moi. On aura une autre adaptation dont on va parler tout à l'heure, et on va se faire une petite pause musicale. Alors je parle pas de politique, parce que c'est le meilleur moyen de se fâcher avec les gens.
Je te vois venir, toi.
Et là, il y a une chanson qui s'appelle Vladimir, qui est de Soviet Suprême. et du coup, vous allez voir, c'est vraiment très très sympa.
Сан-Даниэль, Василий, Владимир, Дмитрий, Ольга, Игорь, Федор, Иван, Юрий, царь Борис, Ирина, Михаил, Владислав, Алексей, Симеон, Петр, Александр, Катерина, Владимир. Dimitri, Vladimir, Vladimir, Dimitri, Vladimir, Dimitri, Dimitri, Vladimir, 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 Vlado, Vladimir, Vladimir, Vladimir.
Soviet suprême avec Vladimir sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. On va toujours parler de BD, de franco-belge, de comics, de manga et d'adaptation de romans. Donc on a parlé de Murakami il y a quelques instants. Là, on va aller un peu plus près de chez nous. C'est quand même un peu plus loin, le Japon. Avec une adaptation de Kafka avec La Conférence, donc qui est adaptée par Mai Grand, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est publié aux éditions d'Argo. Luc, tu connais du coup la Conférence?
Je connais La Conférence. Kafka, ça a été une des lectures que j'ai faites il y a longtemps. Hein. Donc peut-être que j'ai plus en mémoire précisément l'histoire de La Conférence. Mais ça ne nous éloigne pas. En fait, finalement, on n'est pas très loin finalement de Murakami.
On est dans un absurde aussi.
On est aussi dans un absurde, dans des univers un peu, enfin où c'est là l'angoisse des personnages qui tout d'un coup va sortir et va nous emmener dans des mondes complètement étranges. Non, il faudrait que je le remémore la.
Tu peux le parcourir.
Ouais.
Je vais du coup en parler.
Ouais.
Moi, ce que j'aime beaucoup avec Kafka, c'est cette faculté d'utiliser l'animal pour faire des comparaisons avec l'humain. Donc tout le monde connaît la métamorphose où c'est un homme qui se transforme en cafard.
Oui.
Là, c'est un singe qui est devenu homme et qui va aller faire une conférence devant des très grands scientifiques. Alors je ne sais plus le nom de... Mais il y a plein de grandes personnes très importantes avec des grandes barbes qui sont tous blancs et d'un certain âge. Il n'y a pas... Et puis que des hommes. Donc je vous laisse déjà voir la comparaison. Et il va expliquer comment il est passé de son statut de grand singe à son statut d'homme. Et c'est tout simplement ça l'histoire. Donc il va montrer comment on est venu le chercher dans sa jungle, comment on a voulu l'emmener dans des cirques et comment il a réussi, en comprenant l'homme, à se sortir de sa condition de primate. C'est hyper acide comme critique, parce que tout ce qui fait que ce singe devient un homme, ce sont des comportements qu'on va pouvoir juger irrationnels ou absurdes chez nos compatriotes. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de voir cette évolution, cette perte d'animalité vers une humanité, tout en sachant qu'il était certainement plus pur et plus brut et instinctif dans son origine que dans sa version humaine de fin. Je vous spoil pas la fin, mais ça laisse planer beaucoup beaucoup de questions. Ça n'en répond à aucune, mais c'est vraiment très intéressant. C'est hyper hyper agréable à lire et enfin, moi, j'ai vraiment adoré.
Là, je viens de le feuilleter. Hein, si cette BD est à la hauteur de cette phrase détournée de Simone de Beauvoir, où il est dit « on ne naît pas homme, on le devient », je trouve ça magnifique comme comme introduction à la réflexion, effectivement. Donc, oui, c'est, ça a l'air, mais c'est vraiment super. En plus, elle est magnifique.
C'est très, très joli. Ouais. Il y a un côté très, je vais pas dire effacé, parce que les couleurs sont quand même vives, quand même assez impactantes, mais il n'y a pas de, bordure. Je pense que c'est de la couleur directe. Mm-hmm. Et ça donne un aspect très vivant, très, très prégnant, en fait, de ouais. ça. Ouais. Le personnage principal, en plus, a plus de standing, plus de prestance que son auditoire, ce qui fait que ça donne encore un décalage assez, assez, assez génial. Et on le croiserait dans la rue, on se dit, tiens, il a une tête un peu bizarre, mais c'est un homme, il n'y a pas de souci.
Oui, il l'a dessiné à la... Enfin, c'est mi-homme, mi-singe, donc on... c'est un homme c'est... qui aurait gardé ses pattes façon années 70, mais c'est un singe quand on regarde ses mains. Non, c'est vraiment... Enfin, c'est assez impressionnant, hein.
Puis il y a t'es tombé sur certaines doubles pages qui sont vraiment intéressantes, parce qu'on va passer de pages de jungle dense à des pages de jungle urbaine aussi dense, mais on pourrait presque dire que ce personnage, il est passé d'une jungle à l'autre, dans une évolution qui n'en est pas forcément une au final. Il est passé de conflits, on va dire, pour la nourriture, à des conflits moraux, mais c'était hyper intéressant. Alors Kafka, allez-y, hein, c'est vraiment très très bien. Donc si ça peut vous mettre le pied dans la porte de l'univers de Kafka, bah, allez-y, c'est vraiment super bien.
Ouais, mais c'est très impressionnant. Enfin, c'est vraiment très, enfin, graphiquement, c'est impressionnant. Et on sent bien le message derrière. Là, je voyais, il y a la frise de l'évolution. Il reprend la frise de l'évolution, avec les images qu'on connaît bien, le singe qui va devenir progressivement homme.
Mais en là, se redressant.
Ouais, en se redressant, mais qui va devenir homme habillé, quoi. Enfin, c'est vraiment assez, c'est vraiment très, très, c'est super beau, hein. Vraiment.
Et puis c'est vraiment un bon plaisir. Autant pendant l'interview musicale, on discutait, effectivement, des fois on lit Murakami, on ne sait pas où on a voulu nous emmener ou ce qu'on a voulu nous faire comprendre. Là, le message de Kafka est hyper clair.
Oui, oui.
Et c'est d'autant plus triste. Oui. Mais, mais c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller.
Oui, c'est vraiment super. Hein. C'est très... très, très impressionnant, en plus belle publication. Hein. Très,
en plus,
très
ouais, l'album est bien. On est sur un format un peu plus petit, mais peut-être un peu plus large. Mmh. Et non, c'est vraiment très, très beau. C'est très agréable à lire en plus. C'est,
Donc, Maï Grant, la conférence d'après la nouvelle de Franz Kafka chez Dargaud.
Eh ben, merci d'avoir fait la redite. Bon, puisqu'on est chez les grands singes, est-ce que je continuerai avec un truc d'actualité, une BD qui s'appelle Un général des généraux, c'est de Book et Junker, c'est publié aux éditions Le Lombard. À ton avis, de quoi ça parle, ça, Luc?
Nécessairement, ça parle de De Gaulle, et nécessairement, enfin, pour moi, ça parle des présidentielles, j'imagine.
Alors, pas tout à fait. Ça parle surtout du conflit à l'Algérie, passer à l'Algérie française.
Du coup de force des généraux, du carteron de généraux, comme aurait dit le grand général.
Tout à fait. Alors moi qui suis nul en histoire, ça m'a permis de découvrir, alors j'ai pas l'impression d'avoir compris la situation, tellement elle avait l'air d'être complètement absurde à l'époque, mais ça donne un ordre d'idée, et le dessin est vraiment, tout est hyper bon dedans. On a un côté très truculent, on a un côté... j'avais l'impression de lire du Audiard, en fait.
Oui.
On a des gens avec des tronches. Il y a le général Massu, là, qui... Je sais pas, il a tout du bonnet, tout en ayant la droiture de militaire, mais on a vraiment l'impression de l'avoir sorti des tons en flingueur, et c'est vraiment hyper bien. Donc, il y a tout le contexte politique, tous les engagements de certains généraux dans un sens, puis désavoués par l'État, puis des manipulations où lui, il pense que l'État veut faire ça parce qu'ils ont dit ça et il va dire autre chose. Des grands moments de... on va pas dire de bravoure, mais d'envoler dans des discours où au final on se rend compte qu'on a dit une grosse bêtise devant des gens en face et qu'il va falloir l'assumer. Et puis ce discours, comme il est rediffusé, y a d'autres personnes qui ont compris d'autres choses. Mmh. Et c'est des gens qui se retrouvent dans un sac de nœuds, mais qui est complètement dingue. Avec en filigrane, s'il y en avait un qui devait nous sauver, ce serait De Gaulle. Mmh. C'est rigolo parce que j'ai jamais vraiment réussi à savoir si les auteurs... se moque de De Gaulle ou le considère comme un absolu génie. C'est
en tout cas sur cette période historique, De Gaulle a montré sa faculté d'adaptation, ça c'est clair, puisqu'à un moment donné il a été pour l'Algérie française et puis il a bien compris qu'il fallait revenir à l'Algérie algérienne, à l'indépendance, il fallait signer les accords d'Évian, mais c'était un homme politique, c'était un vrai homme politique finalement, c'était pas qu'un général, c'était un vrai homme politique, et c'est vrai que ces généraux qui ont fait ce coup de force, ou qui ont tenté ce coup de force pour conserver l'Algérie française, quand on imagine rétrospectivement que ces gens avaient déjà vécu l'Indochine, mais avaient encore vécu la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que leur période de leur vie n'a été que la guerre, en réalité, c'en est presque terrifiant, quoi. Ces hommes qui ont contribué à libérer la France ont été immédiatement après en Indochine, se sont retrouvés ensuite en Algérie, et là ça fait quand même assez frémir, parce que à chaque fois ils ont défendu l'Indochine française et l'Algérie française, et là c'est quand même glaçant, quoi.
Bah, ça rapporte une petite dose d'humour quand même, oui. C'est vrai que là, je veux pas cibler. Ils passent tous pour des. Désolé pour les gros mots, chers auditeurs, mais ils passent tous pour des cons. Hein.
Oui, oui.
Et il y en a pas un pour sauver l'autre. Il y en a qui vont piquer des crises de colère façon de Funès parce que ils se sont entourés d'incapables. Il y a des incapables. C'est impressionnant. Et puis, alors, moi, tous les grades militaires, je suis un peu perdu, mais je savais pas qu'il y avait des généraux qui étaient plus hauts que d'autres généraux. Alors, il y a que des généraux, mais ils ont une hiérarchie qui se met en place, qui est assez dingue.
Oui, je pense que ça se compte au nombre d'étoiles, mais très honnêtement, j'avoue ma totale ignorance en la matière aussi.
Mais c'est vraiment, c'est hyper drôle. Ils se permettent en plus de faire des vannes de manière assez graphique, puisqu'on commence par De Gaulle qui s'étire les bras dans une position que tout le monde connaît, et là il est en train de se faire tailler un nouveau costard en fait, et alors qu'il est déjà en retraite, et ça finit par le même mouvement devant un parterre.
Je vous ai compris.
Avec un je vous ai compris tonitruant. Ceux qui n'ont pas compris tout le texte de la BD, il y a un cahier explicatif à la fin, parce que c'est quand même une situation historique qui était assez particulière et qui nécessite quand même un peu plus d'explications. Ceux qui ont vécu ça, moi j'étais pas né, hein, ils vont retrouver certaines choses. Alors peut-être qu'ils vont pas apprécier l'humour, parce que c'était pas forcément une situation qui était hyper drôle, mais ça apporte pas mal d'éclairage, et puis ça dédramatise aussi pas mal de choses, ce qui est franchement super super agréable quand on peut faire de la vulgarisation en BD pour parler de choses. Donc c'est les 60 ans, hein, de toute
c'est
façon.
C'est les 60 ans, c'est des accords d'Évian. Hein. C'est, on est juste là, il y a une semaine, c'était la signature des accords d'Évian.
Donc c'est voilà, c'est une BD qui est non seulement d'actualité. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je vais juste finir avec une petite citation, parce qu'il y a De Gaulle qui fait « Alors Massu, toujours aussi con », et Massu lui aurait répondu « Ah oui, toujours gaulliste mon général ». Ce qui est... Alors, j'ai vérifié, on n'est pas sûr de la véracité de la citation, mais on est sûr que Massu aurait pu prononcer ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment bien. Si vous connaissez quelqu'un qui a fond général De Gaulle, là c'est à double tranchant, parce que comme je vous dis, je suis pas sûr qu'on ne se moque pas trop de lui, donc voilà, mais c'est vraiment très très intéressant à lire. Donc voilà, je vous redonne les références, c'est Un général des généraux, c'est de Book et Junker, et c'est publié aux éditions du Lombard, et même si vous n'avez pas vécu ça, vous avez passé un bon moment quand même.
Pour mémoire, sur De Gaulle, il y a une mini-série sur Arte qui présentait De Gaulle à la plage, enfin dans des moments de vie très très triviaux, et qui est génial. Enfin, une mini-série, c'était 3 minutes, 4 minutes, hein, des petites pastilles.
C'était vraiment tout petit.
Ouais, c'est des pastilles, et qui est passé l'an dernier. Enfin, je me souviens bien, et à chaque fois, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens plus de qui l'a réalisé, mais c'était très 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 drôle.
Et eh ben, c'est l'occasion de cumuler les différents ouvrages, sachant qu'il y a des ouvrages politiques qui sont sortis, qui sont moins fun que celui-ci. Il y en a un, je crois que c'était Les années de plomb, où là, on a vraiment une facette assez sombre de De Gaulle. Et du coup, c'est Voilà, mais il ne faut pas hésiter, parce que du coup, c'est l'occasion de, bah, de faire de l'histoire quelque chose de peut-être un peu plus attrayant qu'un bouquin scolaire. Mmh. Mais fouillez toujours, vérifiez vos sources, parce que voilà, je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité, mais il y a quand même peut-être des licences poétiques, on va dire. on va refaire une petite pause musicale et puis après on va partir du côté un petit peu de la jeunesse. Là je vais vous faire une pause avec le dernier morceau de Sigrid qui vient de sortir qui s'appelle It Get Dark. Sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la caisse de Seb et vous venez d'entendre Sigrid, It Get Dark. Alors, eh ben on en parlait tout à l'heure, ce week-end va avoir lieu le Angers Geek Fest. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival, c'est sa troisième édition si je ne me trompe pas, qui est un festival de culture geek, comme son nom l'indique, et qui a lieu à Angers. Donc le festival de culture geek, Angers Geek Fest, on ne peut pas faire plus simple, tout est dans le titre. Et du coup, sur place, vous allez retrouver plein de choses. Donc, il va y avoir du jeu vidéo, il va y avoir du manga, il va y avoir du comics, des auteurs angevins, des expositions. Il y a plein de choses dédiées à la culture manga, pas mal de boutiques. Moi, c'est peut-être le seul truc que je reprocherais, c'est qu'il y a beaucoup de choses à acheter en plus de sa, de son entrée. Mais si vous n'avez jamais fait ce genre de festival, c'est l'occasion de vous immerger aussi dans une faune un petit peu disparate, la faune des cosplayers. Puisque, si vous n'êtes pas habitué, sachez que sur ce genre d'événement, alors comme Japan Expo ou comme le Comic Con à Paris, vous pouvez y aller habillé dans la tenue de votre super-héros préféré. Si vous avez un pyjama Spider-Man, vous pouvez y aller en pyjama Spider-Man. Personne ne vous regardera de travers, au contraire, il y a de fortes chances que les gens vous arrêtent pour vous prendre des photos si votre costume est réussi. Et bien c'est un peu le sujet de cosplay aux éditions Le Lombard, qui est de Maribel Conejero, je pense que ça doit se dire en espagnol, et Mathias Istolenin. Puisque c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui va aller à un Comic-Con, je crois que c'est nommé comme ça, j'ai un gros doute, oui, Comic-Con, mais avec un K, parce que l'autre est une marque, donc on n'a pas le droit de le dire. Et donc ils vont y aller déguisés en groupe, donc on suit un jeune héros qui a construit son costume de Batman, et puis qui y va avec un de ses copains, qui lui a un costume de personnage de Star Wars, et un de ses potes qui justement a un pyjama Pikachu, et il a décidé d'y aller en pyjama Pikachu. Et du coup, ces gens-là, ils ont une vie normale, ils ont envie de vivre un événement, il y a des amourettes, il y a des petites choses qui sont du quotidien d'un adolescent. Mais il y a un truc qui n'est pas du quotidien d'un adolescent, c'est quand il y a une prise d'otage au Comic-Con. Et là, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, un costume implique peut-être des pouvoirs, mais quand même de grandes responsabilités. Et nos héros, ils vont se dire que c'est peut-être le moment justement de devenir des héros pour de vrai. Pas parce qu'on a un costume de Batman qu'on va pas pouvoir essayer de défendre la veuve et l'orphelin, surtout quand on a des gens qui ont l'air plutôt patibulaires dans un événement plutôt festif. Alors, c'est rigolo. C'est j'aurais aimé un truc un peu plus peut-être consistant. Ça se lit très rapidement, ça se lit vraiment très bien, mais donc l'histoire fait pas mal de références, il y a des passages de texte où ce sont quasiment des citations de films, j'ai pas fait le contrôle, mais ma tête elle me disait ça, t'as déjà entendu quelque part, et puis il y a plein de petites choses qui sont planquées dans tout le bouquin, le dessin est plutôt, plutôt agréable, plutôt précis, et c'est l'occasion de planquer des références à plein de choses un peu partout. Il y a un personnage, un des antagonistes, c'est Keanu Reeves, les gars, vous cherchez pas, donc c'est hyper intéressant. Il y a plein de petits détails, alors c'est l'occasion quand il y a des festivals comme ça de planquer des gens qui sont déguisés partout, mais aussi de se marrer simplement, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire, de quoi mettre plein de culture, plein de références dedans. Mais effectivement, je pense qu'un format un peu plus grand, puisque là on est sur un petit format, ça aurait été plus agréable, on aurait pris plus de plaisir, et le dessinateur aurait pu prendre plus de place pour mettre peut-être plus de références. Alors après, ça se lit bien, mais il y a pas à en rougir. Mais voilà, un petit peu plus. C'est peut-être mon seul regret, ça manque de un peu plus.
Oui. Ouais, et de taille. Effectivement, je pense que la bande dessinée manque un peu de il faut du grand format. Enfin, il faut du très grand format pour ce genre de.
Pour pouvoir mettre de la référence, c'est.
Oui, puis rentrer dedans, enfin, se faire prendre dedans, quoi. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est. Bon, je suis pas très cultivé dans ce domaine-là. J'avoue mon manque de culture. Mais Pikachu, je connais, oui, bien sûr.
Il y a forcément une ou deux références. Il y a du Star Wars. Ouais. Il y a du. Il y a des. Comme je disais tout à l'heure, t'as des passages où effectivement tu lis un bout de texte, tu fais. J'ai pas bien entendu que ça quelque part. Et il y a une de mes citations préférées de films d'action. Il y a un mec qui sort, qui est couvert de sang. Et puis son pote lui fait, mais tu es couvert de sang. Et lui répond, oui, je sais, c'est pas le mien. Qui est une citation sortie de Die Hard, que je trouve vraiment géniale.
Die Hard. Pour revenir à Angers Geek Festival.
Oui.
Ils ont une campagne d'affichage qui est extraordinaire. en ville, qui est impressionnante. Je pense que pour les passionnés d'affiches, c'est certainement des collecteurs à conserver, parce qu'il y a une déclinaison de... Enfin, c'est impressionnant, de films, de contes et autres, qui est vraiment très impressionnant.
Qui est très... Alors, j'ai l'impression que c'est pas l'affiche officielle, parce que l'affiche officielle, elle est disponible sur leur site et elle est pas encore, je l'ai pas encore vue dans les vues d'Angers, mais c'est basé sur Angers Pop. Donc, ouais, je sais pas si ça doit être un événement, peut-être une chasse au trésor ou quelque chose, mais effectivement, là, il y a plein de déclinaisons sur le thème principalement de la femme, qui est le thème du festival de cette année. Donc, bah, n'hésitez pas à y aller, allez-y cosplayer. Si vous voulez avoir des idées, n'hésitez pas à lire Cosplay aux éditions Le Lombard de Maribel Maribel Conejero et Mathias Istolenin. Ça pourra vous donner des idées, et puis surtout ça vous prouvera que en y allant déguisé, bah, vous risquez absolument rien, alors, tant qu'il n'y a pas de braquage. Je pense pas que ce soit prévu. Je vous donne pas des idées, hein, attention. C'est pas du tout une idée. On a pas mal parlé de Batman dans cet album Cosplay, parce que Batman est quand même une des icônes, s'il en est une, de la culture geek. Et il y a un album qui est sorti aux éditions Urban qui s'appelle Batman, les adaptations animées. Alors, les fans de Batman, il y a plein de fans de Batman.
C'est pas ton générique, ça le...
Si, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est le jour où j'aurai le temps de refaire le générique. On aura le Batman, la version animée. Parce qu'en fait, il y a plein... Batman, c'est plein de générations. Mon générique, c'est Batman de 66, avec Adam West. Il y a eu les Batman de Tim Burton. Il y a eu les Batman de... J'ai perdu son nom...
Il y a Nolan,
il y a le dernier, Reeves. Et puis, il y a les gens qui ont découvert Batman avec la série de Bruce Timm. Et cette série, elle est restée dans le cœur de nombreuses personnes qui l'ont découverte comme étant une série vraiment très très bonne. Une série dont les premières notes musicales du générique sont vraiment fabuleuses. Une série qui a, pour la première fois, il y a peut-être eu d'autres possibilités avant, mais pour la première fois, il y a un personnage qui a été créé pour cette série et qui est devenu canonique dans l'univers du comics. Alors, un personnage qui maintenant tout le monde connaît, c'est Harley Quinn, mais qui est un personnage à la base qui a été créé pour avoir un sidekick au Joker dans la série. Cet ouvrage aux éditions Urban va reprendre en fait les deux longs métrages Batman qui ont pu avoir été faits, à savoir Batman contre le fantôme masqué qui donne sa couverture, et puis le Batman et Mr. Freeze Sub-Zero qui est sorti en 98 Sub-Zero et 93 pour le fantôme masqué. Ce sont deux adaptations en long métrage d'un animé qui sont sorties en salle. Chose qu'on a moins en fait maintenant pour alors ça a tendance à revenir pour les mangas, mais c'est vraiment c'était plutôt exceptionnel pour l'époque d'avoir du dessin animé en version long métrage et en salle. Et du coup là vous allez retrouver, alors c'est condensé, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement les deux films sont vraiment très très bien. Le premier avec le fantôme masqué, on a Batman et Bruce Wayne, je suis désolé je spoil hein, ceux qui savaient pas, qui sont en proie à des soucis sentimentaux. Ça va jouer sur le côté sentimental de Batman et puis ses engagements de cœur. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, si vous ne connaissez pas le style de cette série, on est sur un style qui est à la fois très lisse, mais en même temps des angles bien travaillés et des personnages qui sont hyper charismatiques. Le Batman, il a sa cape, il y a un travail de dingue qui est fait dessus et ça marche vraiment très, très bien. Alors, je fais partie de ces gens-là qui, en voyant ces images-là, ont forcément le générique en tête, mais c'est vraiment un truc assez assez fabuleux et ouais, n'hésitez pas. Je redonne les rêves vite fait. C'est Batman, les adaptations animées. Alors c'est les adaptations cinéma animées. C'est publié aux éditions Urban Comics. C'est dans Urban Kids en plus, je crois. Dans la collection Urban Kids. C'est accessible aux enfants. Il n'y a pas de tant de violence que ça dans ces longs métrages là. Donc c'est vraiment très très sympa. Je pense que ouais, je vous le conseille fortement. Pareil, lisez-le avant d'aller à Angers Geek Fest, et puis vous allez vous faire un costume de Batman de dingue. On va partir mettre un petit peu de calme. On va partir du côté du Tibet. Si je me plante pas, je sais plus. Je dis des bêtises. C'est ça, au milieu des montagnes. Tibet, oui, c'est ça. Avec Blissful Land d'Ichimon Izumi qui est publié aux éditions Nobinobi. Alors, ceux qui connaissent pas les éditions Nobinobi, ils ont fait un pari, c'est de faire des mangas sans violence, sans vulgarité et sans nudité. Il n'y a pas de plan culotte, il n'y a pas de fanservice. C'est vraiment des lectures qui sont très reposantes, très feel good, et qui sont vraiment hyper agréables. Et là, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Kang Zipa, et on est au 18e siècle au Tibet, et il est apprenti médecin pharmacien, puisqu'il collecte en fait des herbes et il va préparer des décoctions pour pouvoir soigner les gens. C'est un jeune garçon qui est très dévoué à son métier. Il se fatigue beaucoup pour pouvoir récolter des herbes qui ne poussent qu'à certains moments de l'année. Et il est très apprécié de la population. Et un jour, en fait, il va rencontrer une jeune femme qui fait partie d'un groupe de voyage qui s'arrête dans la maison de ses parents. Il découvre cette jeune femme qu'il trouve plutôt jolie. Et il sait que c'est une femme qui est promise à être mariée, puisqu'elle voyage d'une certaine façon. Alors, c'est là aussi où on peut découvrir les côtés historiques du Tibet du XVIIIe siècle. Et ce qu'il ne sait pas, en fait, c'est que c'est sa future fiancée. Et du coup, elle va arriver et elle va bouleverser un petit peu ses habitudes, puisque dès que lui, il va vouloir aller chercher des herbes, elle va vouloir l'accompagner. Mais elle n'a pas forcément les habitudes. Donc elle va découvrir plein de choses avec lui, et lui va en découvrir plein de choses, sachant que pour l'instant, ils ne sont pas vraiment fiancés. Ils sont juste des connaissances, mais qu'ils savent qu'ils sont promis à être mariés l'un à l'autre. Donc je le disais tout à l'heure, Nobinobi, ils ont voulu faire des choses qui sont très reposantes, très feel good. Ça se lit très très simple, c'est hyper agréable, il y a plein de bons sentiments. C'est pas mièvre. C'est pas mièvre, donc c'est quand même hyper bien travaillé. Ça peut être un petit peu trop mélo, hein, pour ceux qui aiment pas les choses avec des sentiments, de l'eau de rose et compagnie. C'est pas pour vous, hein, ça, clairement.
Encore qu'il faut savoir se plonger dans ce genre d'univers-là, de lecture-là, ça fait de mal strictement à personne, et faut accepter les sentiments à certains moments.
Eh ben ça fait du bien au cœur, hein. Ça, c'est le genre de lecture qu'il faut avoir quand vous avez passé une mauvaise journée ou quand vous êtes en manque d'affection. Là, c'est vraiment hyper bien. Donc ça s'arc autour des personnages de Kang Zipa et puis de sa fiancée, mais il y a d'autres personnages qui tournent autour, dont la petite sœur de Kang Zipa, qui a un caractère assez dingue, et c'est vraiment top. Au niveau du dessin, c'est vraiment super joli. Ça fait forcément penser dans le détail à Bright Stories, qui est un manga qui parle aussi de mariage. Mais c'est surtout que ils se sont forcés à faire beaucoup de détails sur les vêtements, sur les habits, les tissus, les textures. Il y a vraiment beaucoup de détails. C'est un dessin qui est très très pointilleux et qui est vraiment hyper agréable à regarder. C'est très dépaysant, et en même temps on est vraiment happé dedans, parce que ça donne plein de choses, et c'est vraiment top. Je vais m'attarder un petit peu aussi sur la fabrication, puisqu'on est ils ont voulu donner un aspect très doux à tout ça. On est sur un papier qui est légèrement jauni, légèrement crème à l'intérieur. Et puis on est sur une couverture qui a pas du tout de pelliculage. Alors j'adore ça maintenant. On avait beaucoup de bouquins avec des choses qui étaient très très lisses. De plus en plus, on va avoir des bouquins qui n'ont plus de pelliculage et qui donnent un côté un peu rugueux.
Une matière en fait, hein, une texture, une matière. Ouais.
Complètement. Et ça donne vraiment c'est vraiment super agréable. Faut savoir que sur cette première édition, on a les premières pages qui sont en couleur. C'est plutôt réussi. Ça ferait presque regretter que l'intégralité du manga ne soit pas en couleur, mais c'est vraiment très très bien, et faut le lire.
En tout cas, tu défends bien l'objet, et effectivement la couverture comme ça vue de loin, c'est une couverture qui ne nous dépayse pas. Enfin, c'est des couvertures. on est dans une dans un graphisme ou dans une présentation, dans un titrage qui nous dépayse pas, qui est, enfin, que je trouve vraiment très joli, enfin très très belle, hein, c'est vraiment un joli travail. Et ouais, tu défends bien l'objet.
Ben, faut y aller. Ouais. C'est très très bien. Alors, on est dans le sens de lecture japonais. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans des séries ultra longues, parce que c'est souvent le problème avec des mangas, là on est sur une série qui sera terminée en 5 tomes. Mmh. Donc ça prendra pas trop de place, ouais, sur les étagères. Et ben, je pense que vous pouvez y aller. Moi, je sais que ma fille, je sais pas s'il y avait un âge proposé, mais non, moi ma fille l'a parcouru et ça passe très très bien. Voilà, à partir de 8 ans, je pense qu'il y a des choses où elle passe à côté, mais c'est vraiment très très bien. Je vous redonne les références. On est sur Blissful Land d'Ichimon Izumi et c'est publié aux éditions Nobinobi dans la collection Genki. Donc c'est vraiment top. That's all, folks. Et oui, vous venez d'entendre, c'est pour qui signale l'approche de la fin de l'émission. Tu t'y attendais plus, Luc.
Ah non, j'ai été.
Ça veut dire qu'il reste un peu moins de 5 minutes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ce qu'on peut faire, c'est rappeler un petit peu toutes les références qu'on a parlé. On a commencé avec Haruki Murakami, le 7e homme, oui, aux éditions Delcourt.
Ouais.
Tu peux redonner les auteurs, s'il te plaît.
Devenet et PMGL.
On a enchaîné avec La Conférence, qui est aux éditions Dargo, d'après Kafka.
Oui, de Mai Grant.
On a parlé d'Un général et des généraux de Book et Junker aux éditions Lombard. On a parlé de Cosplay de Maribel Conerero et Mathias, je ne vais pas y arriver, hein, Istelena. Les auteurs, essayez d'avoir des noms de famille sympas. Ayez pitié des gens qui parlent à la radio. Qui est publié aux éditions du Lombard. On a parlé de Batman, décidément, il est temps que le week-end arrive. Ah bah, on est lundi.
Oui, on est lundi, c'est...
Batman, les adaptations animées publiées aux éditions Urban Comics dans la collection Urban Kids. Et on vient de finir avec Blissful Land d'Ichimon Izumi aux éditions Nobinobi collection Genki. On a parlé des 48 heures de la BD qui commence samedi. Qui commence vendredi. Qui dure vendredi et samedi. Oui, donc, je pense que les albums seront trouvables encore après, mais c'est surtout cette période-là où il y aura plein d'événements. On a parlé du Angers Geek Fest qui, lui, aura lieu de samedi à dimanche au Parc Expo d'Angers. N'hésitez pas à réserver vos places à l'avance, il y a souvent beaucoup de monde. Ça peut être un petit peu long des fois si vous n'avez pas vos tickets à l'entrée. C'est pas mal déjà tout ça. Je te remercie, Luc, encore d'être intervenu.
Ouais.
Est-ce que tu as une idée de quoi tu nous parleras la prochaine fois ?
Alors, j'hésite entre deux adaptations. Il y a une adaptation d'un roman de Ron Rash. Alors, c'est deux publications de chez Sarbacane, mais il y a une adaptation qui s'appelle Serena de Ron Rash. Ou alors, mais je pense que je vais aller vers Richard Wagamez, une adaptation de Richard Wagamez qui s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube. Et je pense que c'est plutôt vers ça qu'on ira. Donc, Richard Wagamez, c'est auteur américain, l'auteur des grands espaces, des forêts. Et donc, je pense qu'on va aller là parce que c'est une bande dessinée. Voilà, ça me parle beaucoup. Voilà.
Ok, alors je connais pas du tout, ce sera une grande découverte.
Et ça me fera relire Richard Wagamez.
Voilà. Eh ben écoute, j'attends avec impatience. Du coup, c'était la caisse de Seb. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Alors n'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver le podcast sur le www.radio-g.fr dès la fin de l'émission. Je vais essayer de mettre des images et puis de vous rappeler ce qu'il y avait en contenu. Je suis un petit peu flemmard là-dessus. Je vous rappelle que demain soir de 22 à 23h, vous avez les Voix du Scénarium qui seront pas du tout direct, mais voilà. On se retrouve dans 15 jours et puis n'oubliez pas de lire. On vous laisse aussi en compagnie du Gros Bazar dans quelques instants. Voilà, ceux qui en ont un et qui en mettent un, Gros Bazar. J'ai cru qu'il était tout seul.
Et voilà, ils mettent le bazar.
Et voilà,
c'est parti.
Ça y est. Un jour, on fera un truc ensemble. Un jour.
Un jour, oui.
Il y a des BD qui sont dans mon avis dans votre style. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah bah, vous avez de la chance parce que moi, j'ai appris à lire. Bah, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Radio G.
Radio G. 101.5 FM. Ha ha ha!